et bienvenue dans la saison 2 de Souterrain, le podcast qui dévoile les rouages de l'enquête de terrain en sciences sociales. Pour cette nouvelle saison, chaque épisode vous propose un dialogue entre deux chercheurs ou chercheuses issus de disciplines ou d'horizons différents, mais qui partagent dans leur travail un terrain ou une thématique de recherche. Grâce à cet échange et à des extraits sonores collectés par leurs soins, découvrons avec eux l'artisanat de la recherche. Tenu il y a un an, en septembre 2024, le procès Mazan a marqué un tournant dans le regard porté sur les violences sexuelles en révélant l'ampleur collective du phénomène et la banalité du profil des agresseurs. Dans la même salle d'audience, plus d'une cinquantaine d'accusés étaient réunis pour être jugés pour les violences sexuelles commises à l'encontre de Gisèle Pellicot. Des hommes qui n'avaient en commun ni leur âge ni leur profession, seulement d'avoir participé à ces viols organisés. L'audience a attiré des romanciers, des journalistes, mais aussi des chercheurs en sciences sociales. Au-delà du cas Mazan, d'autres travaux de recherche interrogent la figure des personnes mises en cause pour violences sexuelles. Qui sont-ils et quels sont leurs parcours? Comment sont-ils pris en charge par l'institution judiciaire et quelles stratégies de défense mobilisent-ils? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Mallory Bolanos, bonjour.
Bonjour.
Tu es doctorante en sociologie à l'EHESS et au centre Maurice Albax, à terre en sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord-Bobigny, rattachée au laboratoire IRIS, et tu as débuté ta thèse en 2020, intitulée provisoirement « Les mises en accusation pour violences sexuelles dans les champs journalistiques, politiques et syndicales ». Nous avons également le plaisir d'accueillir Simon Protard, bonjour.
Bonjour.
Simon, tu es doctorant en sciences politiques à l'ENS Lyon. Ta thèse, commencée en 2020 également, s'intitule provisoirement aussi « Parcours et prise en charge des pédophiles et auteurs de violences sexuelles sur mineurs ». Vous avez donc tous deux fait le choix d'étudier les violences sexuelles non pas auprès des victimes, mais du côté des agresseurs et des accusés. Comment en êtes-vous venu à faire ce choix? Peut-être Simon pour commencer.
Effectivement, la plupart des travaux qui existaient sur la question prenaient souvent le point de vue, en tout cas en sociologie, des victimes. Et moi, comme j'essaye d'interroger les violences sexuelles comme la manifestation d'un rapport de pouvoir, j'ai eu l'envie d'aller voir ce rapport de pouvoir du côté de ceux qui détiennent le pouvoir, donc des adultes dans le cas présent.
Et toi, Mallory?
Alors, un peu de la même façon que Simon. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là en 2016, donc au cours d'un premier master de sociologie générale, où, en gros, je voulais étudier le harcèlement, enfin, ce qu'on appelle beaucoup médiatiquement, notamment le harcèlement de rue, plus largement, enfin, le harcèlement dans l'espace public. Ce que j'ai fait, et donc, comme disait Simon, le peu de travaux dont on disposait en sociologie portait sur l'expérience des victimes, et donc... J'ai voulu prendre le contre-pied de ces travaux-là et m'intéresser à ceux qui potentiellement harcelaient, donc les hommes. Voilà, et donc effectivement, prendre ça comme un rapport de pouvoir et regarder du côté de ceux qui l'exercent, ou en tout cas qui peuvent potentiellement l'exercer, et étudier un peu le mode d'emploi de la domination, quoi, comme on dit souvent.
Je crois que dans ta recherche, justement, tu as été aussi amenée à t'intéresser au point de vue des victimes. Pourquoi ce changement ?
Oui, alors du coup, à partir de ce premier mémoire de master, j'en ai fait un second où j'avais déplacé déjà mon regard de la rue, de l'espace public au sens strict, à la sphère professionnelle. Et donc j'avais travaillé sur les journalistes. Donc là, j'ai interrogé à la fois le point de vue d'hommes journalistes sur les pratiques de harcèlement et de femmes journalistes qui en ont été victimes. Donc là, j'avais déjà commencé un peu à approcher la parole des victimes. Et dans ma thèse ensuite, qui s'est donc déplacé sur les mises en accusation plus directement. J'avais commencé par interroger les modalités de défense des mises en cause, mais le terrain se faisant, je me suis de plus en plus intéressée à la mise en accusation qui de toute façon va ensuite conditionner les modalités de défense. Donc sans attraper directement la parole des victimes, j'en ai pas interrogé, en tout cas pas beaucoup, très peu, voilà. Parce que je ne souhaitais pas mobiliser leurs paroles dans une thèse qui ne portait pas directement sur leur parcours, etc. Enfin, ça ne faisait pas partie de ma démarche et je n'avais pas les moyens éthiques pour le faire. Mais j'attrape leurs paroles par les avocates qui les accompagnent, les militantes, leur production aussi, celle qui est disponible dans l'espace public.
Simon, pour bien définir ton terrain de recherche, tu travailles sur deux catégories, les pédophiles et les pédocriminels. Est-ce que tu peux nous préciser la différence entre ces deux catégories ?
Globalement, ça se traduit en fait sur deux types de terrains différents. D'une part, un terrain pénitentiaire, donc pour des hommes qui ont été condamnés par la justice pour des faits de violence sexuelle et marginalement de consultation d'images pédopornographiques. Et j'ai un autre terrain qui est en fait, lui, un forum en ligne pour des hommes qui se présentent comme des pédophiles anti-contact, c'est-à-dire des hommes qui se reconnaissent comme ayant un désir pour les mineurs, mais qui se refusent en fait aux violences sexuelles sur les mineurs, qui sont convaincus du mal que ça cause, etc.
Quelles sont les conséquences de ces différents cadres de recherche, de ces différents terrains, sur la nature de la parole que tu as recueillie pour ton travail, à la fois ces entretiens en prison et ces paroles que tu as récoltées en ligne ?
La principale difficulté, ça a été qu'en fait, en prison, je suis allé rencontrer des hommes qui n'avaient rien demandé, en fait. Je suis allé les voir en leur demandant s'il était bien vrai qu'ils avaient commis les crimes pour lesquels ils avaient été condamnés, qui sont donc des crimes parmi les plus stigmatisants. Donc on peut imaginer à quel point la dénégation a joué un rôle important, à quel point ils se sont défendus, à quel point parfois ils ont tenté de se justifier beaucoup. Et ensuite, à l'inverse, quand j'ai réussi à intégrer ce forum pour personnes pédophiles, c'est un espace où justement c'est des hommes qui ont quelque chose à faire valoir, à savoir qu'ils sont moins pires que ce qu'on pourrait penser et qui ont donc tout intérêt à rencontrer quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de disposé à les écouter. Moi, pour mon entrée sur le terrain, j'expliquais que ma thèse avait vocation à dissiper certains malentendus. Par exemple, c'est des expressions que j'ai pu utiliser. Et donc, c'est pas à dire qu'ils avaient un discours forcément plus authentique, parce qu'en fait, l'authenticité en sociologie, ça n'a pas vraiment de consistance comme notion, mais qui étaient pris en fait dans des régimes de présentation de soi qui étaient distincts et qui étaient très fortement conditionnés par le contexte institutionnel en fait dans lequel ils s'inscrivaient.
Mallory, quelles difficultés as-tu rencontrées lorsque tu as tenté de mener des entretiens directement auprès des personnes accusées et justement, quelles stratégies as-tu mis en place ensuite ?
Alors moi, à l'inverse des enquêtés de Simon, les hommes qui sont accusés de violences sexistes et sexuelles au travail, c'est assez rare qu'ils se retrouvent incarcérés. Donc c'était pas un dispositif envisageable pour moi. Donc moi, j'avais interrogé deux hommes qui avaient été mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel, donc dans le sillage de MeToo, etc., qui avaient accepté de me rencontrer puisqu'ils ont perçu le dispositif d'entretien sociologique comme un dispositif où déployer une défense tout en, par ailleurs, le valorisant par rapport à l'espace médiatique qui les avait salis puisque l'affaire avait été fortement médiatisée, etc. Donc c'était des entretiens très intéressants, bien qu'un peu éprouvants pour moi tout de même, où j'avais quand même réussi à saisir des rhétoriques de défense intéressantes, etc. Donc ça, c'était des entretiens qui ont eu lieu en master, donc avant que je décide de centrer ma recherche sur les accusations. Et en thèse, j'étais donc censée reprendre ce terrain-là, multiplier des entretiens avec des mises en cause, et finalement, c'est pas ce qui s'est passé, puisque non seulement je me suis pas forcément sentie capable de recommencer, j'ai eu aussi des refus d'entretien par ailleurs. Et donc, une des stratégies que j'ai mises en place, c'est de me tourner vers leurs avocats, que je comptais de toute façon interroger également, puisque les stratégies de défense judiciarisées, en tout cas, sont, enfin, pas que d'ailleurs, aussi médiatiques, sont co-construites souvent avec des avocats pénalistes.
Tu t'es tournée plutôt vers les avocats, mais aussi des associations.
J'ai eu des ouvertures de terrain dans des organisations politiques et syndicales, notamment auprès des cellules de lutte contre les violences sexistes et sexuelles de ces organisations. Où donc là, je me suis un peu déplacée finalement, encore une fois, enfin, je me suis entre guillemets éloignée du côté agresseur, mise en cause, etc. Mais néanmoins, dans ces espaces-là, j'avais quand même un certain nombre de données, de matériaux qui les concernaient, juste pour toujours un peu après faire un exercice. Ma directrice de thèse adore dire « il faut retourner la chaussette », quoi. Donc à travers celles qui accompagnent et défendent les victimes, mais qui finalement font face aux stratégies de défense, en tout cas aux modalités de défense, elles ont aussi en fait beaucoup de choses à nous apporter, à nous livrer sur l'adversité, quoi.
Tu nous as partagé un extrait d'entretien avec un avocat pénaliste qui défend un homme accusé de viol. On l'écoute.
Carnet de terrain de Mallory. Ce type-là que je ne connais pas, je vais le découvrir et je me rends compte que c'est un bagarreur. C'est un bagarreur au sens où c'est un type qui d'abord est effondré. Il est marié, il a des enfants. C'est un tsunami personnel et familial. Et surtout, il veut comprendre. Parce que là, une accusation aussi grave, soit vous avez très précisément ce que c'est, mais il me dit « je ne sais pas ». Il a énormément de relations extra-conjugales. Il va se mettre à essayer de déterminer, dans toutes les relations avec les femmes qu'il a eues, quelles seraient celles susceptibles d'avoir déposé plainte. Parce qu'il n'imagine pas que ça serait une accusation délirante. Dans mon positionnement médiatique, je vais dire les choses suivantes. Il y a des accusations fortes qui sont dénoncées. Mon client n'entend pas dire que la victime est délirante, ni même qu'elle n'a pas subi des choses qui la touchent personnellement. En revanche, il conteste totalement les accusations de viol. Donc en réalité, c'est toujours un exercice assez ténu, d'équilibriste. L'idée, c'est de dire, vous avez une femme lucide qui dit quelque chose, ne venons pas discréditer sa parole, mais venons dire que derrière vous, vous avez quelqu'un qui dit qu'il est innocent et qui n'a pas commis les faits.
Mallory, qu'est-ce que tu fais de ce type de discours de défense dans ta recherche? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé à plusieurs reprises et comment est-ce que tu le travailles?
Oui, alors ce discours-là, donc l'extrait qu'on vient d'écouter, comment dire, il est à la fois assez unique entre guillemets parce que il est très concentré, enfin il est assez intense dans la défense que déploie cet avocat pénaliste, en tout cas la défense de l'image de son client, etc. Donc c'est des rhétoriques qui sont loin d'être isolées en matière de violence sexiste et sexuelle, notamment au travail. Néanmoins, c'est quand même un des avocats qui l'a développé de façon quand même assez forte, quoi. Tous n'ont pas nécessairement ces rhétoriques-là non plus. Typiquement, ça rejoint des choses que les mises en cause ont pu me dire dans leurs entretiens, notamment le fait d'essayer de se distancier, de se distinguer de la figure de l'homme mis en cause pour violence sexuelle en parlant notamment du statut marital, du fait qu'il soit père, qu'il ait des enfants, etc. Donc d'essayer de se rapprocher d'une figure sympathique, quoi. Enfin, en tout cas, qui a la sympathie de l'opinion publique. Le fait aussi de le décrire comme un bagarreur, quelqu'un qui est combatif, etc. Bon, bah, ça insiste aussi sur le fait que la personne soit en train de... En tout cas, qu'il y a une épreuve à surmonter. Donc, enfin, voilà, c'est aussi une façon de susciter l'empathie pour son client, etc. Donc, c'est des choses qui reviennent souvent, mais finalement, peu d'avocats pénalistes les ont aussi fortement développées sur mon terrain, quoi, en entretien.
On voit que ce sont des situations sensibles pour vos enquêtés, qui sont dans des positions d'accusés ou de délinquance. Comment est-ce que vous composez avec cet aspect de votre terrain et notamment comment est-ce que vous préservez leur anonymat? Comment est-ce que vous négociez avec eux l'accès à leur parole, Simon?
Moi, cette question d'accès à la parole et de protection de l'anonymat a été assez difficile à négocier, en tout cas en prison, puisque sur Internet, en fait, les gens sont déjà des anonymes, ils ont déjà des pseudonymes, etc. Mais en prison, j'avais des autorisations qui émanaient de l'administration pénitentiaire, mais il me fallait ensuite recueillir le consentement des hommes que j'allais enquêter, qui engageaient leur réputation, leur sécurité aussi au sein de la prison. Donc premièrement, j'ai dû dissimuler pendant tout le long de l'enquête l'objet exact de l'enquête, justement pour ne pas être repéré comme celui qui parle au pointeur, pour ne pas donc en fait incriminer indirectement toutes les personnes avec qui je mènerais des entretiens.
Comment tu le dissimulais ?
En racontant, y compris aux surveillants, y compris au personnel pénitentiaire, que j'allais faire une comparaison entre différents établissements pénitentiaires, en pipotant un peu en fait. Et en recevant tous les enquêtés dans un petit bureau qui est en fait un parloir avocat, qui était coupé du reste de la détention et avec une porte qui fermait, etc.
Et qui dans l'administration pénitentiaire était au courant de l'objet de ta recherche ?
À la fin, un peu tout le monde en vérité. En fait, au départ, la hiérarchie, je ne sais plus à quel grade exactement ils avaient décidé que ça s'arrêterait, mais en fait, les surveillants pénitentiaires et les surveillantes connaissent très bien la population carcérale et donc en fait savent aussi très bien qui est-ce que je recevais en entretien, puisque je devais systématiquement faire la demande qu'on aille les chercher en cellule pour me les amener. Donc probablement que tout le monde savait, je ne sais pas, au sein de la détention, en tout cas en maison d'arrêt, qui était vraiment au courant. Donc ça, c'était pour la maison d'arrêt, où c'était un contexte vraiment particulier, et où notamment faire signer des formulaires de consentement en maison d'arrêt, c'était à peu près impossible, parce que je leur disais d'un côté que j'allais garantir leur anonymat, et d'un autre côté, je leur tendais un formulaire conforme à la réglementation européenne que je leur demandais de signer nommément. Et donc en fait, la première fois que la situation s'est produite, l'enquêté m'a regardé et m'a dit « bah non, dans ces conditions-là, je peux pas du tout répondre ». Ce qui fait que j'ai finalement décidé de solliciter un consentement oral au début de chaque entretien, donc sur l'enregistrement, qui ne demandait pas à ce qu'ils donnent leur nom et prénom, mais en gros que par la voix, on voit que c'était bien eux qui avaient donné leur consentement. Et dans l'autre établissement pénitentiaire que j'ai enquêté, qui est cette fois un centre de détention, donc pour les plus longues peines, pour des gens qui sont incarcérés depuis plus longtemps, c'était un centre de détention qui était spécialisé dans la prise en charge de ceux qu'on appelle les AICS, pour auteur d'infraction à caractère sexuel. Ou, pour le dire dans les termes du terrain, qui était, selon les surveillants pénitentiaires, le paradis des pédos. Et donc là-bas, les enjeux d'anonymat entre les détenus étaient beaucoup moins importants. Et donc, ces détenus-là me parlaient plus facilement des raisons qui les avaient conduits en prison, de leur condamnation, etc. Et les enjeux d'anonymat étaient finalement pas si déterminants de leur point de vue.
Mallory, c'est une question qui s'est posée pour toi aussi, l'anonymisation dans le processus d'enquête ?
Alors, bon, là, de toute façon, elle se pose a posteriori et elle se pose encore parce que j'ai pas encore trouvé la meilleure façon, en tout cas, d'anonymiser. Puis en plus, j'ai beaucoup d'affaires médiatisées, publiques, qui concernent des personnalités publiques, etc. Donc, ça va être d'autant plus compliqué. Sur le terrain, au départ, je pensais avoir plus de difficultés à montrer patte blanche, entre guillemets, aux avocats de la défense, donc aux avocats des mises en cause, etc. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai eu plus de mal à négocier le terrain, notamment sur des questions d'anonymat et de confidentialité avec les avocates de personnes victimes ou avec les militantes, par exemple, mais beaucoup avec les avocates. Et donc, du coup, plutôt du côté féministe de mon terrain, ce que j'avais pas du tout anticipé, qui ont pu pas mal me mettre à l'épreuve, en fait, avant de me livrer des informations. Enfin, voilà, au début, ça m'a un peu surprise, mais voilà, j'ai rapidement compris que c'était aussi parce qu'elles font leur boulot dans un contexte et un climat qui est assez anxiogène pour elles. Elles sont sursollicitées, elles sont parfois même attaquées, en fait, pour la cause qu'elles participent à défendre, etc. Donc cette question-là, elle s'est posée au moins avec cette partie-là du terrain, quoi. Et finalement, de l'autre côté du terrain, ça a été plutôt simple de négocier. Et j'avais l'impression que, en tout cas, au moins pour les avocats pénalistes, ça leur importait peu que je les anonymise ou non, quoi. Mais je les anonymiserai quand même.
A posteriori ?
Oui, oui.
Tu parles de l'accès au terrain. Je me posais la question de l'effet de ton genre, le fait que tu sois une femme, sur l'accès que tu as eu à ton terrain. Comment est-ce que ça a été perçu par tes enquêtés ? Est-ce que tu penses que ça a facilité ou au contraire rendu plus difficile l'accès à certaines paroles ?
Alors, c'est toujours difficile à évaluer. Maintenant, je pense que du côté des militantes féministes, en tout cas dans les organisations politiques et syndicales, bon, de fait, quand je me retrouvais dans les réunions avec ces militantes-là, on était que des femmes, enfin quasiment systématiquement que des femmes. Il y a peut-être eu un ou deux hommes de passage, mais donc je pense que le fait que je sois une femme aussi, dans tous les cas, je dis pas qu'elle m'aurait fermé la porte si j'avais été un homme ou quoi, mais je pense que ça facilitait quand même une certaine confiance, etc. Du côté des avocates, donc je pense notamment à certaines avocates féministes qui étaient quand même très suspicieuses au début, en tout cas inquiètes de par aussi mon angle d'approche dans ma recherche, donc plutôt avec cet intérêt pour les mises en cause, elles ne comprenaient pas trop où je voulais en venir. Donc je pense là, typiquement, le fait d'avoir été une femme, ça a quand même un peu sauvé la négociation du terrain, parce que c'était un peu mal parti du fait de l'objet et de l'angle de recherche, quoi. Et du côté des avocats pénalistes en défense, comme j'ai pas eu de problème outre mesure, en tout cas avec ceux qui m'ont finalement accordé un entretien, bon, peut-être que ça aurait créé plus de connivence que je sois un homme, mais enfin, en même temps, je serais restée un doctorant en sociologie. Enfin, je suis pas sûre qu'ils m'auraient perçue comme un allié ou un... Mais bon, j'étais de toute façon pas menaçante pour eux, ni en tant que femme, et je l'aurais pas été bien plus en tant qu'homme, ou bien moins, quoi.
Est-ce que c'est une question qui s'est surtout posée au moment de ton mémoire, lorsque tu as fait des entretiens directement avec les mises en cause ?
C'est une question que je me suis beaucoup posée aussi, presque à un niveau, pas personnel, mais ça concernait ma recherche, mais c'est vrai que c'était une question épineuse pour moi, parce que j'avais tellement envie de faire cette enquête sur... les rhétoriques, les pratiques, le point de vue des hommes susceptibles de violenter ou quoi, que je me suis beaucoup sentie limitée par le fait d'être une femme et de... Enfin, finalement, voilà, je savais que je pourrais observer ce qu'on appelle la maison des hommes en anthropo et en socio. Maintenant, je sais pas, je pense qu'il y aurait eu des dynamiques d'entretien différentes avec les mises en cause si j'avais été un homme. Enfin, je pense qu'il y avait aussi une forme de... Enfin, j'étais relativement inoffensive pour eux de toute façon. Peut-être qu'il y aurait eu plus d'enjeux de concurrence si j'avais été un homme, notamment vis-à-vis de ce qui serait une bonne sexualité ou quoi, comme ils étaient accusés de violence sexuelle. Enfin, voilà.
Simon, est-ce que toi, sur ton terrain, tu as réfléchi au fait que tu sois un homme et ce que ça crée sur la situation d'enquête, sur ton accès au terrain ?
Oui, bah, tout comme Mallory, c'est des questions qui sont difficiles à trancher. On peut faire des hypothèses a posteriori sur ce qui a pu jouer. Je pense que pour mon évolution dans la prison, ça a énormément facilité d'être un homme. Je suppose que j'aurais eu plein d'entraves implicites, notamment parce qu'au contact des surveillants et surveillantes pénitentiaires, qui c'est parfois un milieu très misogyne, assez homophobe, raciste aussi. Donc là, ça a très certainement joué. Après, je pense que la question de l'âge, dans mon cas, mais c'est aussi un biais, parce que c'est une question que je me pose beaucoup dans ma recherche, mais la question de l'âge, là, pour le coup, j'ai vu des enjeux. Par exemple, d'être perçu comme le petit jeune de la prison quand j'étais dans le deuxième établissement. Aussi pour la façon dont j'ai pas toujours été pris au sérieux par la hiérarchie pénitentiaire, mais ça, c'est un classique. Ce qui n'empêchait pas, par exemple, que je sois parfois assimilé soit aux psychologues, soit aux intervenants extérieurs de la prison. Donc ça, c'était un peu... Enfin, ça rentrait un peu en ligne de compte, mais je pense que la position de classe a beaucoup joué. Enfin, il y a un ensemble de dynamiques qui ont joué ça, en tout cas pour le terrain pénitentiaire, et pour, à l'inverse, sur le forum en ligne, pour le coup, l'âge a beaucoup joué, parce que c'est un espace où la moyenne d'âge est très basse, autour de 26 ans, je crois. Donc j'étais en plein dans cette moyenne d'âge-là. C'est essentiellement des hommes. Et donc là, il y a eu une forme de proximité. Après, ça présage pas de si ça a eu un effet négatif ou positif, en fait, mais en tout cas des effets de familiarité qui ont pu s'instaurer plus facilement qu'en détention.
On imagine qu'il y a de nombreux enjeux lexicaux sur un sujet qui porte un tel stigmate. Simon, tu nous parlais déjà de la distinction entre pédophile et pédocriminel. Comment apprend-on à nommer, à contourner les termes, à trouver les bonnes expressions auprès des enquêtés et ensuite à les restituer ?
Oui, bah ça, c'est un des enjeux qui est de plus en plus vraiment au cœur de ma thèse, à savoir d'enquêter sur la pédophilie comme catégorie, de voir que c'est un phénomène donc, en gros, qui est un enjeu de sexualité entre des adultes et des enfants, qui trouvent des formulations très diverses dans le monde social, dont aucune n'est exempte d'une certaine forme de positionnement, de parti pris, de présentation. Pour aller vite, bah, cette distinction entre pédophilie et pédocriminalité, c'est une distinction qui vient des milieux féministes à l'origine, pour répondre notamment à l'accusation selon laquelle le terme de pédophilie, étant donné le radical de philia qui serait l'amour, serait un terme trop lénifiant qui porterait en son sein des formes d'excuses, de normalisation, comme quoi les pédophiles seraient animés de bonnes intentions. Donc il y a eu une première mise en chantier de la catégorie et avec la création du néologisme de pédocriminalité qui vise à insister aussi sur la dimension judiciaire, en fait, sur la dimension à la fois des pratiques et de leur condamnation. Ensuite, donc moi, c'est un peu armé de cette nuance que j'ai abordé le terrain, puisque d'un côté, donc, j'ai des pédophiles et des pédocriminels, pour le dire vite, comme c'est encore le cas dans ma thèse, et je suis arrivé sur ce terrain, qui est donc le forum de ces hommes qui se présentent comme des MAP, pour Minor Attracted Person, ou People, je ne sais plus, les MAP, qui sont donc une façon à la fois de ne pas utiliser le terme de pédocriminel parce qu'ils revendiquent justement de ne pas être des criminels, mais de ne pas non plus utiliser le terme de pédophile parce que c'est un terme connoté péjorativement. Donc je me suis mis, moi, sur le terrain dans les échanges à utiliser cette expression avec eux. Et puis, petit à petit, j'ai quand même bien perçu que c'est une distinction qui était, qui était porteuse d'une revendication, porteuse d'une distinction qui avait des enjeux de présentation de soi fort et que donc je ne pouvais pas mobiliser cette catégorie en première personne. D'autant que, en fait, ceux qui se présentent comme des MAP ou des pédophiles sur le forum sont aussi des délinquants dans la mesure où ils consultent pour beaucoup de la pédopornographie. Donc pour l'instant, j'en suis revenu à ce terme de départ qu'est la pédophilie, mais qui, j'espère, dans l'écriture, en fait, j'espère réussir à faire voir comment c'est un peu un terme parapluie, on pourrait dire, dans lequel les différentes tensions viennent se rencontrer et viennent produire des nouveaux termes de part et d'autre du champ social.
Aujourd'hui, j'ai tout perdu pour quelque chose que je n'ai pas fait.
C'est quoi, en fait, qu'on vous reproche ?
Quand vous avez une gamine qui vous reproche parce qu'elle ne vous aime pas, que vous sortez avec sa mère et qu'elle va tout faire pour détruire le couple, qui apprend que sa mère veut un enfant de vous, que vous allez épouser sa mère qui invente des conneries parce qu'elle écoute vos ébats amoureux avec sa mère, elle écoute derrière la porte ce que vous dites à votre compagne pour pouvoir après aller répéter à ses copines les choses et fait croire qu'elle a subi des choses. Excusez-moi, hein. Moi je suis pas juge, mais quand une jeune fille vient dans mon bureau, ouais, le compagnon de ma mère m'a fait un cunnilingus, excusez-moi, pour faire un cunnilingus à une femme, faut vraiment y aller. J'ai fait comment? Elle a pas de bleu, elle a rien du tout. Je l'aurais forcé. Y a pas de trace de tout ça. Toutes les analyses sont en ma faveur. Toutes les analyses médico-légales démontrent qu'elle est vierge, qu'elle a jamais été touchée, rien du tout. Tout est en ma faveur et je prends quand même.
Tu as réalisé cet extrait d'entretien avec un homme de 55 ans, condamné à 6 ans de prison pour violence sur sa belle-fille. Comment, dans la situation d'entretien, tu manies ce vocabulaire et qu'est-ce que tu retiens de cet entretien qu'on vient d'écouter ?
Pour ce qui est du vocabulaire, j'ai vite appris, à mes dépens, à utiliser le moins possible les termes qui fâchent. Jusqu'à même me mettre à utiliser des expressions condamnables en soi, en fait. Je parlais des euphémismes tels que des contacts sexuels entre adultes et enfants. Enfin, j'essayais toujours de trouver les expressions les plus douces possibles, mais ce qui pose problème pour désigner un phénomène qui n'est pas doux du tout. On entend dans l'extrait d'entretien à quel point j'endosse un peu son parti à cet homme en lui disant « qu'est-ce qu'on vous reproche ?» presque en sous-entendant « à tort, à raison ». Donc voilà, ça a été ça, un des gros enjeux pour mener les entretiens, c'était en permanence de veiller à ne pas braquer, à ne pas froisser, ce qui supposait de ma part des contorsions parfois lexicales qui, a posteriori, à la réécoute des entretiens, sont très difficiles. De s'entendre garder son calme à ce point-là et dire « ah oui, ah bon, qu'est-ce qu'on vous reproche ?» C'est assez éprouvant de se rendre compte qu'on a dit ces mots-là.
Mallory, est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré toi aussi, le fait d'adapter ton vocabulaire selon les différentes situations d'enquête auprès des avocats ou des personnes que tu as rencontrées ?
Alors moi, ça s'est joué de façon un peu moins intense que sur le terrain de Simon. Parce que ma tête se focalise sur les accusations, je vais parler par exemple d'accusatrice ou d'accusateurice pour inclure les victimes masculines. Et donc je vais pas du coup parler de victime à proprement parler. Ce qui a pu et ce qui peut poser problème dans des entretiens avec les avocates féministes par exemple. Puisque le terme accusatrice, il est plutôt à connotation péjorative. Puisqu'en général, quand on qualifie une femme, a fortiori une femme qui accuse pour violence sexiste et sexuelle d'accusatrice, on sous-entend qu'elle ment, qu'elle fabule ou quoi. Or moi, dans ma thèse, je l'utilise parce que, justement, déjà parce qu'elles accusent, c'est ce qu'elles font, et j'aimerais bien contribuer à réhabiliter ce terme-là pour penser aussi la capacité d'agir des personnes qui subissent des violences. Et du côté des mises en cause, donc moi j'utilise le terme mise en cause beaucoup, ou accusée parfois. Du côté féministe, j'ai plus tendance à dire agresseur, mais c'est ce que je dis aussi en fait moi dans ma vie ordinaire, aussi dans ma vie militante, etc. Enfin, je parle jamais de mise en cause, je parle d'agresseur. Mais dans ma thèse, ça fait beaucoup plus sens de parler de mise en cause puisque je me concentre sur les accusations encore une fois. Et que limite presque ça serait plus radical en fait, puisqu'en fait une simple accusation suffit et qu'on n'a pas à se poser la question de si... Enfin en tout cas moi en tant que sociologue, j'ai pas à me poser la question de si les accusations sont vraies ou non quoi.
Quelles émotions ce travail sur les violences sexuelles suscite-t-elle chez vous et comment est-ce que vous travaillez avec ces émotions ? Simon.
Des émotions, il y en a eu plusieurs sur le terrain, même si un peu ce que je commençais à décrire sur le rôle qu'on endosse un peu pendant les entretiens a aussi une correspondance dans les émotions qu'on ressent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'en ressentais relativement peu, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Plutôt moins qu'en réécoutant les entretiens où là, je prenais le choc un peu a posteriori de ce qui avait été dit. Mais c'est a posteriori aussi, en m'entendant et en me souvenant, que j'ai retrouvé aussi certaines émotions. Et une émotion qui était très importante, c'était la gêne. La gêne, à la fois de cette position un peu ambivalente que j'occupais, mais la gêne aussi que certains enquêtés cherchaient à me faire ressentir. Par exemple, en faisant des allusions sexuelles explicites, mais presque inutilement explicites, en me demandant mon assentiment, par exemple. Et vous savez que les enfants font ça parfois. Donc ils sont autant de choses que je suis allé chercher après coup, et qui aujourd'hui alimentent une partie de ma recherche, en voyant comment les dénégations, donc le fait de refuser d'accepter la position qu'on vous donne, c'est aussi quelque chose qui se joue en situation, et qui se joue en faisant ressentir certaines choses à l'interlocuteur. J'ai pu être intimidé parfois aussi, mais la gêne, pour ce que ça dit des positions sociales, des interactions, c'est un sentiment qui est très, très fécond en fait, dans la réflexivité.
Mallory, est-ce que la gêne est également un sentiment que tu as rencontré sur ton terrain ou bien d'autres émotions ont-elles émergé? Et comment ces émotions ont-elles nourri ton analyse?
Alors non, moi pour le coup, j'ai pas ressenti de gêne à aucun moment. Dans les entretiens avec les deux mises en cause donc, dont on parlait un peu tout à l'heure, enfin, surtout dans un d'entre eux, j'ai plutôt ressenti de la crainte, moi. Enfin, j'ai été très intimidée, ben, comme tu disais aussi, Simon. Je me suis sentie intimidée par le mise en cause du coup, que j'avais en face de moi, qui était très intimidant et qui cherchait, je pense, aussi un petit peu à m'intimider. Et moi, le sentiment que j'ai beaucoup eu et qui, du coup, suscite un peu de la honte a posteriori, c'est que... C'est-à-dire pas seulement avec les mises en cause, mais aussi avec les avocats. Enfin, en tout cas, dans les entretiens avec les personnes qui soutiennent les mises en cause, on va dire, de quelconque façon. En fait, souvent, je me suis retrouvée à être dans une forme d'adhésion à leur discours. Enfin, ils ont quand même réussi à me prendre un petit peu dans leur rationalité. Enfin, dans leur, Et plusieurs fois, quand même, j'ai senti ce petit vacillement de « mince, est-ce que je vais trop loin ? » Enfin, « est-ce que je vais trop loin en tant que femme ? Est-ce que je vais trop loin en tant que féministe ? Est-ce que je vais trop loin en tant que sociologue ? » Enfin, qu'est-ce que... Voilà, et donc c'est un petit vacillement qu'il faut gérer a posteriori, quoi, parce que finalement, après, je suis toujours quand même revenue sur mes... sur mes positions et sur mes bases, mais enfin, j'aime pas trop dire ça, mais je pense que c'est intéressant pour la recherche, ça nourrit, ça décentre un petit peu. Enfin, je suis pas non plus hyper favorable à ce décentrement, enfin, je pense qu'il a un coût aussi selon nos propriétés sociales, nos positions sociales, nos expériences aussi, etc. Et du coup, voilà, il a quand même été un peu difficile à gérer par moment, quoi.
Face à la spécificité de la violence liée à votre terrain, vous avez participé à un groupe de travail. Pouvez-vous nous en parler et nous en présenter les objectifs?
Alors, du coup, avec Simon, on est arrivé sur la deuxième édition du groupe de supervision, qui était institutionnel, qui avait été conçu, élaboré par des camarades doctorantes et doctorants, avec une grosse majorité de doctoranteux quand même. Voilà, donc l'année d'avant, donc des financements avaient été demandés à un ou deux laboratoires qui avaient accepté. Le concept, le cadre de ce groupe-là, c'était donc une huitaine de personnes, doctorantes ou post-doctorantes, en tout cas jeunes chercheuses sans poste, dont la spécificité était de travailler sur les violences sexuelles. Et la plus-value de ce dispositif, c'était qu'il était supervisé par une personne, enfin une professionnelle formée à la fois en psychologie et en sociologie. Donc il y avait à la fois des outils issus de la psychologie à nous apporter et qu'il y avait une compréhension assez fine de nos enjeux, en tout cas des enjeux propres au terrain sociologique. Et donc on se réunissait deux fois par mois, il me semble, ou une fois par mois. Enfin, assez régulièrement, et on pouvait soit présenter des cas qu'on était en train de... Enfin, en tout cas, les situations qui nous semblaient souvent problématiques, on les présentait au groupe, et on s'entraidait, et puis on avait aussi l'expertise, du coup, de la superviseuse.
Simon ?
Oui, donc, en fait, on a participé à ce groupe-là pendant une année, et après, je crois que, en fait, le travail de recherche de financement qui reposait toujours sur les mêmes personnes a fini par être trop coûteux. Toujours est-il que nous, on en est parti avec deux autres camarades qui participaient au groupe et on a décidé de continuer à se réunir de manière informelle, donc parce qu'en fait, c'est des camarades qui sont aussi des amis, et donc de discuter de nos problématiques, de thèses, de discuter de la difficulté du terrain, etc. Et ensuite, de boire une bière. Et je pense que, un des enseignements de ce groupe-là, ça a été de voir à quel point les difficultés qu'on avait dans notre vie, le stress de la thèse, le stress de la vie en général, était finalement très très fortement imbriqué avec les enjeux du terrain. C'est-à-dire qu'on avait rarement des effets isolés du terrain sur nos vies. Par contre, on se rendait compte qu'on était fragilisé d'une manière assez souterraine, assez globale par ce travail-là. Donc je pense que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été une première avancée dans la compréhension un peu de ce que ça fait de travailler sur ces sujets-là, assez à distance de ce qui existe dans la littérature, où on dit que écouter des récits difficiles produit une forme de traumatisme presque à l'identique sur les individus. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je l'avais perçu. Enfin, je crois qu'en tout cas, c'était assez partagé, avec bien sûr des façons de le vivre très différentes selon les histoires des uns, des unes et des autres. Mais voilà un peu les enseignements de ce groupe qui, malheureusement, en fait, a périclité lui aussi par l'éloignement, que la précarité de nos positions. Moi, j'ai eu un poste d'ATER à Tours, Mallory à Paris, etc., a engendré. Et donc, ce groupe-là aussi a périclité. Mais une fois notre terrain terminé, donc peut-être une fois passé le moment le plus éprouvant à cet égard-là. Une des vertus, je pense, que ça avait, c'était d'ancrer dans les institutions le fait que, quelque part, nos difficultés étaient réelles, méritaient d'être prises en compte et qu'elles étaient professionnelles. Donc je pense un peu une forme de reconnaissance aussi qui est venue par ce dispositif.
Merci beaucoup Mallory Bolanos et Simon Protard d'avoir participé à Souterrain. Vous nous avez permis de comprendre la complexité d'enquêter du côté des personnes mises en cause pour violences sexuelles et les défis éthiques, méthodologiques et émotionnels que cela implique. Je suis Mathilde Tonfourcade et ce podcast produit par Noria Research a été préparé par Cécile Jean-Mougin, Camille Abesca, Sixtine Desrour, Claire Lefort et Iris Lambert, à la réalisation Tante Agatha de Parole Parole. Un grand merci et à bientôt.